Henri et coude, le cycle patibulaire, le jardin. Alors, monsieur Jules, un petit tour de jardin. Il est dans son beau à présent. Fille, ouvre donc la porte, monsieur, car il a l'air de ne pas savoir le chemin. Ah oui, le jardin. Il s'enfonçait, oblong et assez vaste, derrière la maison sans étage. On poussait une petite claire-voie peinte en vert qui le séparait de la cour et empêchait les poules d'y pénétrer. Par-dessus la haie vive émergeait le clocher du village et la plus haute croix du cimetière. Une gloriette tressée de liserons, de capucines, d'aristoloches et de bois de senteur occupait un des angles du fond. C'est pourtant dans cet endroit rustique, trop régulier, à la fois court-il, jardin et potager, tracé au cordeau, propre et symétrique jusqu'à la manie, semé de plantes prolifiques et voyantes, arborant de gros fruits rudicons et peu délicats, fleuris de roses perpétuelles, de dahlias, de tournesols, de pivoines, des carrés de choux alternant avec des buissons de groseilliers, c'est dans ce jardin vulgaire que vaguent obstinément mes souvenirs à chaque printemps, quand il fait très doux et que cet air tiède vous serre tendrement la gorge et vous donne envie de pleurer. Avec ses légumes violets, ses poiriers taillés en pyramide, à la fois luisants et hauts en couleur, il me faisait l'effet d'un pâteau endimanché, faro et guindé, cachant sous des étoffes trop caties et peu coûteuses, son grand corps charnu et taillé à grands coups. Enfime-nu souvent le tour dans tous les sens, l'avons-nous parcouru de toute façon? Me suis-je extasié pour flatter ton brave homme de père devant les puériles arabesques de Buy et de Hyénin, devant ces petits chemins en spirale et cette statuette en plâtre portant sur la tête un vase de clématite? Dis, ma bien-aimée d'alors, ma plantureuse idole d'autrefois, ma tour bénigne aux fortes hanches, aux yeux confiants, aux joues framboisées. Si le jardin a mauvais goût si recherché, si barbare, avec quelque chose de toi, mon fruste animal rose, à la fois vulgaire et appétissant, les grandes fleurs rondes s'y épanouissaient glorieusement, roses et giroflées embaumaient à outrance, cerises et groseilles y foisonnaient, et les abeilles gloutonnent le pillet sans vergogne. Jardin radieux et candide. Comme toi, cher enfant, il éclatait le rire sonore que d'aucuns eussent trouvé canaille. Et dans ton corsage de cotonnade, étreignant ta taille opulente, tu me semblais ces gros boutons de pivoine au moment de s'ouvrir à l'humidité de la rosée fraîche. Qui me définira ta beauté copieuse et tes charmes si bien ordonnés, jardin élu des sèves? Du jour où tu connus le jeu d'amour, mon aimé, tu le jouas avec la conscience que tu apportais un beau travail profitable aux fonctions saines et nutritrices de la vie rurale. Autant que toi, ce jardin faisait l'orgueil de ton père le cabaretier. Alors, monsieur Jules, un petit tour de jardin. Et tu m'y pilotais et m'en montrais les métamorphoses progressives. Ô ma chère, non pareille. Je m'intéressais avec toi aux végétations les plus discréditées. Charme du temps, atrocement cru, mais point banal, où fleurissent les pommes de terre. Tant humide, tant de gésine, tant gros, où la glèbe transpire et sent la luxure. Oh, je n'oublie pas l'odeur fétide et pourtant irritante de ces fleurs, ce parfum de racines qui tête. C'est par un jour de pluie chaude de juin que tu te ployais pour me cueillir des fraises, et en te relevant, ta croupe craquait et ondulait comme chez une pouliche qui se trémousse, et je me penchais, et ton visage frôla le mien, si à propos que, bouche à bouche, nous confondîmes longtemps nos souffles éperdus. Baiser sain, savoureux, abondant. Mais si tes lèvres avaient le goût ambrosiaque de la fraise, elles avaient aussi l'arôme un peu terreux et surais des fleurs dédaignées, des fleurs de la pomme de terre, parfum de touffeur, d'orage et de sol détrempé. Combien de fois dans la gloriette me suis-je promené autour de toi, avec tes haltes fréquentes, après avoir fait le tour du jardin. Amour reposant et sûr, viril déborde harmonieuse et pleine réflexion d'essence, et cela devint une habitude. Jamais de jalousie, de bouderie ou d'humeur. Je te retrouvais toujours secourable et complaisante comme je t'avais laissé la veille. C'est à peine si au mois des sureaux ou vers la chute des feuilles, nos prostrations normales, longues, absolues, sans subterfuge et sans artifice, dignes de la nature qui n'entend pas malice en ses œuvres, furent un peu plus violentes, ton rire moins joyeux et ta prunelle plus fiévreuse. Une année, une pleine année de totales et copieuses possessions, ma sœur, ma libre et candide maîtresse. Pourquoi ne me demandais-tu ni promesse ni gage? Il ne me fallut rien te jurer. Tu t'étais donné comme je t'avais prise, tacitement, après quelques visites, sans préambule apparent, sans que nous ayons parlé de cela. Je crois même que nous parlions de bien autre chose. De la vieille servante du curé, si bavarde, de ton voisin, le fils du charron, ce Rougeau dont tu te moquais de si bonne foi, ou d'objets moins notables encore, de la voiture du baron d'Armelbrang qui venait de passer avec un fracas despotique sur la grande route silencieuse. Midi, des mouches pâmées moribondes hâtent les ailes au bord de la rivière. Tu me tends une allumette enflammée pour allumer ma pipe. Tu ris de ma maladresse et de ma distraction. Je prends tes mains, je les presse, tu ris toujours. Mes dents crissent, j'ai froid dans le dos. Et comme tu te recules derrière le comptoir, je te renverse et hume, cueille et m'approprie les irritantes prémices de ta jeunesse. Damnation ! Ah, ce seul souvenir, mon sang s'insurge, et se cabre comme un courrier de guerre dresse l'oreille à la fanfare de la charge. Et ce jour-là, je revins te voir au crépuscule. Et comment se fait-il que rien de ce jour ne me fût indifférent, que je revois jusqu'au sarrau bleu de ton polisson de frère qui rentra ce soir un peu éméché, son foulard rouge sortant de sa poche, et qui crut devoir me distraire en me proposant une partie de billard. Ah, le brave garçon. D'où vient que je te regrette, ma blonde potelée, crème de femme fraîche et moelleuse, ferme et tendre, douce à respirer comme les simples, sapide comme une mûre sauvage mordue à même les buissons, d'une saveur presque fraternelle, aussi caressante au toucher que l'étoffe satinée des pantogon du jardin. Me faut-il apprécier seulement aujourd'hui ton amour sûr et reposant, le seul qui ne me laissa ni rancœur ni déboire? Dis, faut-il que ce soit seulement aujourd'hui? Et le sentiment de cet amour qui ne me démolit point, qui m'assouplit et me fortifia même comme un massage, qui n'eut rien d'artificiel et de corrodant, se met à fermenter maintenant dans mon cœur. Ainsi, l'anodine et rafraîchissante bière blanche du pays devient capiteuse et maîtresse dans les cruchons de grès hermétiquement clos. Lorsque je partis pour la ville, Tu ne te plaignis même pas, fille incomparable. Devant les tiens, ta main secoua cordialement la mienne. Demeurés seuls un instant, ton baiser ne fut ni plus exaspéré ni moins balsamique que de coutume. Tu demeuras bonne, rieuse, accorte, comme toujours. C'était pourtant en mai, amie point comédienne, et le jardin que me vantait ton père serait si glorieux cette année et recommencerait avec tant d'exubérance et de prodigalité sa carrière, dont nous avions suivi les progrès avec tant de sympathie l'autre été. Et tu n'avais point démérité, tu n'avais point vieilli. Pas une allusion à la vie nouvelle qui commençait pour moi et aux conséquences de notre séparation. Nous nous quittions, bons camarades, comme nous nous étions rapprochés. Les premiers mois de l'absence, je m'échappais de loin en loin de la ville pour te faire visite. Heureux dans mon égoïsme de te trouver toujours rose, rieuse et vaillante. La dernière fois, c'est d'un air très simple et avec une pudique rougeur bien loyale, nullement affectée, que tu te levas à mon entrée. J'interrompais ton tête-à-tête avec le fils du charron. Vous étiez attablé près de la fenêtre. Assis à ma place habituelle, le gars me tira gauchement sa casquette. Et devant ton bon sourire et devant la façon dont tes yeux clairs me désignaient pour ton fiancé, le ferme et crâne gaillard dont les grosses cuisses et le visage de pleine lune te mettaient en gaieté autrefois, je fus sur le point d'oublier que rien ne fut passé entre nous. De croire, mon enfant, à ton innocence, bien entendu à cette innocence de la chair dont parlent le catéchisme et la poésie surannée, car pour celle de ton cœur, de ton bon cœur, oh, je n'en ai jamais douté. Cette fois, pourtant, profitant d'une sortie de ton futur maître, le mal de mine prolifique, je voulus t'embrasser et te traiter comme devant. C'était mal, pervers, cela, et sortait de notre honnête commerce des jours passés. Aussi, tu ne me dis rien. Tu ne te rebiffas pas avec colère, mais sans effarouchement, sans pruderie affectée. Tu me regardas d'un air surpris, d'un air indifférent, de l'air consciemment, inconsciemment cruel, dans son affabilité même d'une personne renseignant un visiteur qui se trompe d'adresse. Pas d'autre changement en toi. Tu restais mon bon camarade, ma blonde réjouie. Tu te laissas embrasser, tu te laissas embrasser, si passive que je n'eus plus envie de recommencer. Et sans qu'il y eût un reproche, une autre explication, toute velléité de renouveau amoureux avec toi me passa. Cela fut si simple, si digne, si dépourvu de mise en scène et de posture, que dans le moment je fus conquis à la situation nouvelle, sans un regret, sans un dépit, même pris de vénération pour l'extraordinaire fille. Je fus même de belle humeur, je riais, et te racontais, un peu en hâbleur et en garçon, des histoires merveilleuses de la grande ville. Et le soir, quand ton frère rentra, accompagné du charron membru, je perdis royalement au billard deux tournées de bière blanche, et tu pus croire, oh, le complément suave de ma chair, que je te perdais avec autant de résignation et de sérénité que le reste de l'enjeu. Vois, la contagion de ton insouciance et de ton tempérament peu romanesque. L'après-midi, je ne songeais pas même à faire un tour de jardin ou à aller seul m'asseoir élégiaquement sous la tonnelle. J'entrevoyais au-delà de la cour les rouges pivoines enrichis de diamants par la dernière averse, et je respirais des bouffées de terre humide et de fleurs potagères. Alors, monsieur Jules, un petit tour de jardin? Tout à l'heure, Baès, tout à l'heure. Mais à présent, rentrer à la ville, ce n'est plus la même chose. C'en est fait de mon beau calme, de mon indifférence, de mon dédain, de mon renoncement. Veux-tu croire, ô succulente fille, amoureuse au ragoût inoubliable, que je souffre à l'idée de ton mariage avec ce rustre aux étreintes victorieuses? Je me le représente à l'œuvre, le gaillard expéditif. Un voile passe devant mes yeux. Bref, s'il était ici, je lui chercherais querelle. Moi qui l'ai complimenté sincèrement, moi qui ai mis, et sans arrière-pensée alors, vos mains l'une dans l'autre, et qui ai promis d'assister à la noce. Pardonne cette déclaration, la première, mais depuis je commence à croire que je t'ai aimé. C'était donc de la passion pour de vrai, et non de la bagatelle, du simple plaisir de l'amusement corps à corps que nous prenions sous la tonnelle du banal jardin. Heureusement, positive campagnarde, que tu n'as jamais lu de livres et d'autres bêtises où des gens, sous prétexte qu'on se voit volontiers de près, se lament, rêvasse, pérore, se ronge le cœur, se boude, se jalouse au lieu de profiter de l'occasion et du temps, et de s'accoler, de se mêler. D'ailleurs, tu n'y comprendrais rien. C'est la ville qui réveille et entretient chez nous ses lubies, ses chimères d'enfants gâtés, ses recherches de midi à 14 heures, et qui nous fait regretter, oh, ne ris pas trop, comme des trésors de bonheur, des périodes culminant de béatitude, des paroxysmes de félicité, l'habitude, le passe-temps, le plaisir machinal, le pis-aller d'autrefois. Tu ne te ressasseras pas le passé, toi, ma placide et simplice compagne des francs jeux. Tu ne rumineras point ta vie morte et ne connaîtras jamais les fascinantes et les lancinantes nostalgies, ma simple et rose femelle, quand des enfants, beaucoup d'enfants, te seront venus. Un tour de jardin, monsieur Jules? Ah, baisse, je n'hausserai plus les épaules et ne ferai plus le fort, l'homme raisonnable à présent. Le jardin, je m'y précipiterai, j'y courrai en fanatique, je m'y plongerai comme dans un sanctuaire miraculeux à la fin d'un mélancolique et fervent pèlerinage. Ah, ce jardin! Ce que je m'y promène d'ici en pensée, ce que j'en hume les parfums violents, ce que j'en admire les fleurs barbares, ce que j'en croque les fruits rêches. Autant ces objets étaient passifs, couchants, effacés, tout à ma dévotion là-bas, au temps de ma liaison avec ta fille, digne Baesse, autant à présent ils me hantent, m'obsèdent, me bourrèlent, impérieux, narquois, désirable. Pas un détail que ma mémoire ne me rabâche. Les plus futiles sont les plus acharnés. Le revers de la main dont le charron s'essuie le front et rejette en arrière sa casquette de soie, la couleur saurette de ses baragues rapiécées, la camisole rose de la petite, les turquoises de ses boucles d'oreilles, une touffe de pensée qui expirait dans un verre d'eau sur le comptoir, l'odeur de la pipe, l'orteil qui passe par le bas troué du pacan, mon rival, lorsque, assis en balançant les jambes, il a laissé choir son sabot, et l'air de petite ménagère en perspective, de petite femme qui soignera bien son homme, l'air un peu dégoûté, mais compatissant et prometteur aussi, dont elle a regardé l'orteil du robuste ouvrier. Les bouffées lourdes qui soufflent du jardin, le clapotis de l'eau dans le bac où elle rince les verres, le glouglou du robinet. Leurs yeux d'une bêtise si affolante, le claquement de lèvres luron du gaillard, sa façon de se caler sur ses hanches et de se cambrer, et l'ostensible appétence de la fiancée devant ce prochain coucheur. Toutes ces choses, toutes, bien d'autres encore, me suffoquent, compactes et pesantes, et se résolvent en larmes contre les parois de mon cœur. Et je rapproche de ces scènes récentes les choses anciennes, celles de mon règne, de mon pouvoir sur elles. Minutes incomprises, minutes méconnues, minutes si chères à présent. Rien que je voudrais revivre au prix du restant de ma vie. Au jardin du cabaret sur la grande route de Hollande, mes souvenirs butinent comme des abeilles, mais le miel qu'ils en rapportent tourne à l'amertume. C'est une assiettée de soupe au lard que tu mis un soir d'hiver devant ton landor de frère et que tu plantes à présent devant ton baïs fessu aux cheveux filasses, aux yeux d'enfant, aux bras terribles. Et le chemin bordé de saules qui me conduisait à ta porte, l'accotement étroit et poudreux longeant le fossé stagnant, et par-delà les blés et les clairs d'une faux qui fait lever les sauterelles, et le soir qui tombe, et la cloche du village qui te fait dire « Oh, déjà 9 heures !» Et la nuit, fermée sans un réverbère, sans une lanterne quand je sors du cabaret, et nos mains et nos lèvres qui se concertent une dernière fois dans l'ombre après que tu as poussé les volets. Et les longs silences, quand tu te penchais sur ta couture avec, pour les scander, cet éternel « Oui, monsieur Jules, ainsi vont les choses de ce monde. » Oh, chère bête qui me manque, dire que je sais même à présent à quel moment tu soupirais, dire que tout cela est passé, bien passé, que tu ne me seras jamais plus que tu m'as été, que je vieillirai, que je vieillis. Alors, monsieur Jules, un petit tour de jardin ? Ah oui, le jardin !